Vous êtes sur RTL. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
Et oui, regardez l'heure, 18h40, on va défaire le monde maintenant dans RTL Soir. Le trio Cyprien Sini, Isabelle Choquet, Laurent Tessier est cette fois-ci bien installé. L'info autrement, c'est parti et ça dure jusqu'à 19h, le menu Cyprien.
Ce soir, on défait la Corée du Nord. Alors qu'un missile balistique envoyé par Kim Jong-un a survolé le Japon cette nuit, on va vous emmener dans le pays le plus fermé du monde. Au menu également, l'Arabie Saoudite accueillera les Jeux Asiatiques d'hiver. Oui, vous avez bien entendu, les Jeux d'hiver avec le ski, tout ça. Vous découvrirez aussi les seuls Français qui vont payer leur énergie moins cher et un resto ouvrier qui entre au Goemio. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et voici le son du jour.
L'hymne nord-coréen, puisque ce pays recroquevillé sur lui-même refait parler de lui. La nuit dernière, un missile balistique venant de Corée du Nord, donc, a survolé le Japon. Provocation, menace, intimidation. Quoi qu'il en soit, c'est une première depuis 5 ans. Alors avec l'équipe d'On défait le monde, on a voulu se plonger dans l'étrange atmosphère du pays de Kim Jong-un.
Que sait-on de la situation actuelle en Corée du Nord? Le pays est-il toujours aussi fermé et comment vivent ses habitants?
Pour nous ouvrir les portes de cette forteresse où vit environ 25 millions d'habitants, on a contacté dans le pays voisin de Corée du Sud le journaliste Sébastien Faletti. Il est correspondant en Asie du Figaro, auteur de La piste Kim, voyage au cœur de la Corée du Nord. C'est aux éditions de l'Équateur. Et on va être franc tout de suite, hein. La Corée du Nord, c'était déjà fermé comme pays. Mais alors depuis le Covid, c'est carrément verrouillé avec porte blindée.
On a tendance à comparer la Corée du Nord à une boîte noire. Cette tendance est encore renforcée depuis la pandémie, depuis le Covid. Ils ont fermé de façon tellement drastique que même le dirigeant, le leader suprême Kim Jong-un, a semble-t-il ordonné de tirer sur toute personne qui tenterait de rentrer sur le territoire. Je suis allé très récemment sur la DMZ, qui est un poste frontière, le rare poste frontière où on peut avoir un contact avec l'armée nord-coréenne. Le bâtiment nord-coréen est complètement fermé, il y a des rideaux, il y a des herbes folles qui poussent du côté nord-coréen de la ligne démarcation. À travers la fenêtre, j'ai pu voir une silhouette en combinaison hazmat. Donc il y a un repli complet, prend le risque minimum sur le plan épidémique.
Les combinaisons hazmat, ce sont des combinaisons anti-contamination. Vous savez, on en voit dans les films. Ouais. En gros, bah, ils ont l'air très très traumatisés par le virus.
Quoi. Mais à l'intérieur de la Corée du Nord, il y a quand même quelques diplomates, des ambassades, non?
Bah alors, il n'y en avait déjà pas beaucoup avant le Covid, mais alors depuis?
Désormais, il n'y a absolument aucun contact physique. Je pense qu'aujourd'hui, le nombre d'étrangers, en tout cas d'occidentaux en Corée du Nord, doit se compter sur une ou deux mains. Certains pays ont des relations diplomatiques avec la Corée du Nord. Ce n'est pas le cas de la France. Et d'autres pays, dont la France, ont eu des bureaux, mais la plupart de ces diplomates ont été invités à partir au début de la pandémie. Donc c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que hormis des diplomates chinois et russes, il y a sans doute très peu de diplomates étrangers dans la capitale.
Mais est-ce qu'on sait comment vivent les Nord-Coréens aujourd'hui?
Alors là, tout de suite, pas vraiment. Mais alors juste avant le Covid, Sébastien Faletti y est allé. Voilà ce qu'il a vu.
Les Nord-Coréens n'ont pas le droit de communiquer avec l'extérieur. On ne peut pas envoyer une lettre en Corée du Nord. Il n'y a pas d'internet ouvert, hormis pour quelques élites. On ne peut pas téléphoner sur un numéro nord-coréen. Donc c'est vraiment la population la plus isolée du monde. Et à Pyongyang, j'ai vu des supermarchés. J'ai même vu apparaître des taxis. Même s'il y a toujours des coupures d'électricité, des coupures d'eau. Il y avait même un quartier de Tours surnommé Dubaï. Il y a même un Luna Park, un parc d'attractions, des patinoires. Par contre, dans la campagne, c'est extrêmement pauvre. Des populations très mal soignées. Il y a la tuberculose qui circule toujours. C'est une situation donc très contrastée entre cette bulle de Pyongyang et puis le reste de la population extrêmement pauvre.
Et a priori, avec l'épidémie de Covid et un pays fermé à double tour, les choses n'ont pas dû s'arranger, ce qui pourrait d'ailleurs expliquer l'attitude belliqueuse de Kim Jong-un.
Oui, belliqueuse, c'est un euphémisme.
RTL, sous les radars.
On défait l'info passée sous les radars.
Alors, on n'arrête pas de vous parler de la facture d'électricité qui s'annonce salée cet hiver. Eh bien, Laurent, vous avez trouvé les seuls Français qui, eux, vont l'avoir baissée, cette facture.
Oui, Oaz Habitat a eu le flair. Il y a 2 ans, bien avant toutes ces histoires de sobriété énergétique, le bailleur a lancé des négociations pour obtenir des prix de l'énergie préférentiels. Il s'est rapproché d'un centre bien particulier dans le département. Jean-François Dehage est le directeur de la communication de Oaz Habitat.
On a trouvé une source stable de chaleur qui est un centre de valorisation énergétique qui est dans le bassin de vie, qui est à Villers-Saint-Paul, pour être plus précis, et qui brûle des déchets, donc une chaleur fatale qu'il convenait de récupérer.
Et la négociation porte ses fruits, résultat des prix ultra compétitifs pour chauffer les locataires. Un exemple, on peut trouver sur le marché des prix du mégawattheure autour des 300-400 euros. Et bientôt, à Nogent dans l'Oise, on en sera très très loin.
On a négocié un prix autour de 20 euros, 19 euros et quelques, 20 euros pour les 20 ans qui viennent. On l'a fait dans le bon timing, voilà.
Ouais, vous avez bien entendu, près de 20 euros le mégawattheure au lieu de 300-400, 7000 logements vont être accordés en 2023. Voilà la recette pour que les locataires paient leur énergie moins cher.
Bon timing, c'est effectivement
une expression,
effectivement. Petite pause et on défait le monde, se poursuit dans RTL Soir. L'Arabie Saoudite, mesdames, messieurs, va accueillir les Jeux Asiatiques d'hiver. Oui, d'hiver, vous avez bien entendu, du ski, du patinage, du hockey sur glace au milieu du désert. A tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir.
Chaque jour, le réseau Century 21 et ses 950 agences immobilières vous offrent votre taxe foncière. Aujourd'hui, la gagnante est Madame Marie-Claude Roboli qui a joué dans son agence Century 21 GEB Immobilier à Coutras. Vous aussi tentez votre chance dans votre agence Century 21. Règlements et conditions en agence et sur century21.fr.
Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
18h49, on défait toujours le monde dans RTL Soir. Et tiens, on vous propose maintenant d'enfiler une doudoune au beau milieu du désert parce que Isabelle a choisi le winner du jour.
Oui, un winner, un grand gagnant, l'Arabie Saoudite, qui vient d'obtenir, tenez-vous bien, l'organisation des Jeux Asiatiques d'hiver. Oui, j'ai bien dit d'hiver, Isabelle.
Oui, et on va tout vous dire, hein, quand on a découvert cette information ce matin, on a tous eu à peu près la même réaction.
Non mais allô quoi.
Parce que évidemment, quand on parle de l'Arabie Saoudite, on ne pense pas du tout neige et montagne. Non, la première image, c'est le désert, les dunes de sable écrasées de soleil, enfin bref. Laurence d'Arabie, quoi. Et là, ce qu'on nous vend, c'est...
À quelle légèreté sur les appuis.
Exactement.
Une bonne descente de ski. Alors, bon, au cas où vous auriez un doute, aux Jeux d'Asie d'hiver, il y a bien des épreuves de sport d'hiver. Ski, snowboard, hockey sur glace, patinage artistique. 28 épreuves sur neige et 19 sur glace. Et au cas où vous auriez un autre doute, non, il n'y a pas de neige en Arabie Saoudite.
Il a neigé en Arabie Saoudite. Regardez ces belles images.
Oui, bon, d'accord, madame, mais c'est pas souvent quand même.
La neige ne tombe sur cette zone, le nord du pays, qu'environ une fois tout les 3 à 4 ans, donc c'est vraiment un événement.
Voilà, la neige comme un événement parfois dans le nord, vers Tabouk à 700 mètres d'altitude, mais généralement il fait plutôt 10 degrés l'hiver et 45 l'été. Cela dit, il y a plus haut, hein, les montagnes saoudiennes culminent à 3000 mètres quand même. Évidemment, plus on monte, plus on a une chance d'apercevoir quelques flocons, mais pas de quoi organiser non plus un super jet. D'ailleurs, vous noterez qu'il n'y a pas de station de ski en Arabie.
Oh, comme c'est bizarre.
Ah, quelle surprise. C'est peut-être pour ça que les Jeux Asiatiques d'hiver n'avaient jamais été organisés en Asie occidentale. Depuis leur création en 86, ils ont eu lieu 4 fois au Japon, 2 fois en Chine et aussi au Kazakhstan et en Corée du Sud.
Mais alors, pourquoi l'Arabie Saoudite en 2029?
Oui, pourquoi? Why? Limada en arabe. Eh bien, parce qu'en Arabie, comme au Qatar, on n'a pas de neige, mais... on a de la monnaie, des pétrodollars et du coup...
rien ne semble pouvoir freiner l'Arabie Saoudite dans ses projets toujours plus ambitieux.
Et le grand projet, c'est NEOM. Néo comme nouveau, M comme mostakbal, ça veut dire avenir en arabe, nouvel avenir donc. En résumé, c'est la construction d'une gigantesque mégapole en plein désert, plusieurs cités futuristes sorties de nulle part et tout là-haut dans le nord.
Un voyage vers de nouveaux sommets, le summum de la vie en montagne. Voici Trojena.
Trojena, un ensemble construit entre 1500 et 2600 mètres sur presque 60 km carrés, avec un village troglodyte 2.0, un lac artificiel, un centre de santé ultra moderne et bien sûr...
le climat saisonnier offre une myriade d'aventures en haute altitude, dont la première expérience de ski en plein air de la région.
Wow. On nous assure que la température descend en dessous de zéro l'hiver et que le reste de l'année, il fait 10 degrés de moins qu'ailleurs. Mais pas un mot sur la poudreuse. Et franchement, on voit mal comment on pourrait s'en sortir sans neige artificielle. D'ailleurs, le skieur saoudien Faïk Abdil le dit lui-même, je n'aurais jamais cru que je skierais un jour dans mon pays. Pour info, aux Jeux d'hiver de Pékin, là, cette année, il représentait à lui seul toute la délégation saoudienne.
Ouais, on n'est pas sur un pays qui a la culture des sports d'hiver.
Pas exactement.
Je regardais ce matin les clips de promotion de ces villes futuristes, mais c'est le cinquième élément.
C'est incroyable, c'est de la science-fiction.
C'est Star Wars un peu. Ouais.
C'est Star Wars, c'est exactement ça.
C'est assez fascinant.
Mais alors, s'il fait 10 degrés de moins, hein, quand même.
Que dans le reste du pays.
Oui, dans le reste du pays. Il fait 45 l'été, donc il fera 35.
L'été, il fera quand même 35.
Et puis il fera zéro.
C'est bien résumé.
Qu'est-ce qu'il est perspicace.
Il est perspicace, il est perspicace.
Le match des infos pour briller.
C'est le duel avant le souper. Isabelle versus Laurent. Qui détient la meilleure info pour briller au dîner ?
Elle mène 13 à 10. Laurent est sous pression. Ah bon. Un peu le match de la dernière chance, comme l'OM. Et ce soir, Laurent,
il a réussi à le caser.
Vous misez tout sur Sandrine Rousseau pour briller.
Oui, la députée d'Europe Écologie Les Verts qui s'est levée en pleine séance à l'Assemblée cet après-midi pour faire un geste inattendu avec ses mains, celui apparemment d'un triangle ou d'un diamant. Mais que signifie ce geste ? Eh bien, la séquence a duré quelques secondes. À ce moment-là, l'ambiance était électrique dans l'hémicycle. On était en plein dans le sujet des violences conjugales, et Sandrine Rousseau a donné une explication à la sortie.
C'est le signe des manifestations féministes des années 70. Ça représente le vagin et le système, le sexe des femmes. Voilà.
Ouais, un geste à forte valeur symbolique, le triangle, donc comme symbole du sexe de la femme.
Enfin, là, vous trichez un peu, c'est un peu comme si Sandrine Rousseau avait joué avec nous au match des infos pour Brie.
J'ai demandé une alliée.
Bon, allez, place à Isabelle.
Une petite leçon de vocabulaire avec Isabelle.
Oui, on parle beaucoup ces jours-ci du boycott de la Coupe du Monde au Qatar. Vous savez d'où ça vient, ce mot ?
Qatar ?
Eh bien non, de monsieur cafard, voyons, enfin, de monsieur boycott, Charles Cunningham boycott. C'était l'intendant d'un gros propriétaire terrien en Irlande à la fin du 19e siècle. Il étranglait littéralement les fermiers avec des loyers astronomiques. Alors il y a eu révolte, les paysans ont arrêté de travailler aux récoltes, les commerçants du coin ont refusé de lui vendre des produits, on a même arrêté de lui distribuer son courrier. Charles boycott s'est retrouvé ruiné puisqu'il n'y avait plus de récolte. Son nom a été repris dans le Times, le journal, et il est resté dans nos dictionnaires.
Elle est forte.
Elle est forte.
Bon, bah, je vais lui redonner le point ce soir. Bah,
merci.
Ah, le point ne va pas Sandrine Rousseau.
Laurent, c'est dur.
Je tente toutes les méthodes.
C'est compliqué, mais même la triche, ça ne fonctionne pas.
Mince.
Allez, RTL Soir, ça continue dans quelques secondes. Il y aura votre journal de 19h. Et puis, on va défaire votre monde avec le resto routier devenu star du Gaultémiou. À tout de suite sur RTL.
Julien Cellier, Cyprien Sini ont défait le monde. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
18h57, minutes juste avant le journal, on défait votre monde, vos projets dans RTL Soir.
Imaginez, vous êtes dans un petit village et vous reprenez un resto ouvrier sans prétention. Et 4 ans plus tard, surprise, vous avez les honneurs du Gaultémiou, Laurent.
Oui, c'est ce qui arrive à Emmanuel et le bistrot de la gare à Bray en Mayenne. Le restaurant a fait son entrée dans le prestigieux guide culinaire. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Vous êtes le chef du restaurant. Alors comment avez-vous réagi en l'apprenant ? Vous y avez cru tout de suite ?
Pas du tout, non. En plus, j'étais en train de cuisiner, j'étais un peu en retard pour le service. Il était 9h10, il me restait peut-être 20 minutes de travail. Du coup, j'ai cru que c'était une mauvaise plaisanterie de ma partenaire. Et puis finalement non, elle m'a passé le téléphone et voilà, ça s'est fait un peu comme ça, c'est comme ça qu'on l'a appris.
Quand vous avez repris ce restaurant il y a 4 ans, vous visiez quand même une excellence, une récompense, quelque chose ?
Rien du tout, nous on est dans un tout petit village, il y a 500 habitants ici. Moi après j'essaye de bien faire les choses, c'est tout. J'essaye de proposer des bons produits à mes clients, on est sur des volailles mayonnaises. Voilà, moi je travaille avec des agriculteurs locaux qui me font les légumes, je suis les saisons puisque je suis leur production. On a des frites maison qui viennent d'un petit village à côté qui s'appelle Comer, voilà. Enfin les frites, des pommes de terre, les frites on les fait sur place. Bon, on est tous les jours sur une petite proposition de menu, 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. À part ça, on essaye de bien faire quoi, c'est tout.
Un menu à 13 euros, hein, c'est ça
C'est ça. Nos concurrents autour de chez nous sont à ce tarif-là, sont autour de 13 euros. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de proposer au mieux par rapport à ce tarif-là.
Et alors, maintenant que vous êtes en train de devenir une star, parce que vous êtes dans le Gaultémiou, vous êtes sur RTL, vous avez forcément un plat signature. C'est quoi votre plat signature ?
Ah, j'en ai quelques-uns. Moi, j'aime bien. Je fais très peu de pâtisserie parce que voilà, je suis pas trop pâtissier. Mais la tarte au citron non meringuée, parce que bon, après la meringue, c'est juste rajouter du sucre pour du sucre hein, sur du citron qui est acide. Si on aime le citron, normalement, il y a pas trop besoin. Du coup, ça, c'est plutôt quelque chose qu'on me redemande souvent. Sinon, je fais surtout des plats aussi un petit peu canailles, comme des tripes, comme travailler le boudin, mais le sortir de son boudin traditionnel, en fait, le faire en croquettes, par exemple. Ça, c'est des choses qui m'amusent un petit peu.
Et vous êtes tout seul en cuisine ?
Oui, je suis tout seul en cuisine, oui.
Là, c'est une vraie récompense quand même. Vous le prenez comment ?
Ah bah, je le prends très bien. Puis je le prends en me disant que je suis un peu sur la bonne voie, quoi, qu'il faut pas que... Voilà, on s'est pas gouré depuis 4 ans, c'est comme ça qu'il faut qu'on continue, c'est comme ça qu'il faut qu'on avance. Puis aussi, il faut que je pense à remercier aussi les partenaires que j'ai, les cultivateurs et quelques éleveurs qui travaillent avec moi, parce que s'ils me donnaient pas de bons produits, je ferais pas les bonnes choses.
Eh bien, rendez-vous au bistrot de la gare à Bray en Mayenne. Merci beaucoup, Emmanuel.
Au revoir.
On a noté l'adresse. Merci. Yes. Merci à vous, les amis, dont défait le monde. On se retrouve demain.
À demain.
À 18h40 pour de nouvelles aventures dans RTL Soir.